Vous écoutez
RMC.
RMC.
Hier soir, je me suis un peu reposé. Je me suis refait le Chelsea-Liverpool.
Voilà, est-ce que tu changes ton fusil d'épaule?
Lequel de fusil, lequel d'épaule?
Je vois tous les mecs qui sont invités, qui ont évidemment, qui ont tous passé par la première ligue, sur des médias français qui ont tous la banane. Hein, c'est génial, Manchester City, regarde, oh!
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Génération After. Ce soir au programme, la suite et la fin des huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions, coup d'envoi des deux matchs à 21h. Autour de la table, à mes côtés pour Génération After, un homme qui incarne Génération After, Coach Courbis. Bonsoir coach.
Salut les amis et salut à tous.
C'est dans l'émission des jeunes là ce soir coach, hein. C'est Génération After.
Ah ben oui.
Ceux qui sont nés après 1990.
Ben oui, mais c'est...
T'aimes bien, toi, hein?
Là, je me sens fou, c'est ce que tu as dans la tête.
Exactement.
C'est bon, ça.
J'accueille également Walid Acharchour. Salut, Walid.
Salut, Nico. Salut à tous.
Dans Génération After, ce soir, bien sûr, on va suivre en gros fil rouge les deux matchs de Ligue des Champions. Certains disent qu'il n'y a plus de suspense entre le Real et Liverpool. On verra ça dans quelques minutes, bien sûr. 5-2 à l'aller pour le Real.
Compo ultra offensif de Liverpool.
On en parle dans un instant. On va donner toutes les informations concernant l'autre match également. L'autre huitième de finale retour entre le Napoli et l'Eintracht Francfort. 2-0 pour le Napoli. Napoli au match aller. Le Napoli qui reçoit ce soir. On sera avec les quatre drôles de dames dans Génération After. On reviendra également, tiens, ce soir avec les drôles de dames sur la parodie d'arbitrage hier soir lors du City Leipzig. À quoi sert la VAR? Si elle ne voit rien ou presque. On va en débattre. Coach, un avis tranché sur l'assistance vidéo. Je ne savais pas que tu détestais à ce point la VAR, coach.
Pourquoi à ce point?
Tu n'en veux plus?
Pas du tout. Et je te dis, en ce qui concerne l'utilisation de la
VAR. Ah, tu veux une autre VAR?
Mais non. Alors, ce soit pour les hors-jeux, tout ça, mais ok, je trouve très, très bien. Mais en ce qui concerne les pénalties, j'ai encore rien compris dans le règlement. Et ensuite, c'est insupportable pour moi quand il y a un arbitre qui ne va pas prendre son temps d'aller voir pour être sûr de ne pas s'être trompé, c'est tout.
Je demande des améliorations de l'assistance vidéo. On va en parler tout à l'heure avec toi et avec Walid. On parlera de Nice également, dernier rescapé français sur la scène européenne avant de recevoir le Sheriff Tiraspol 1-0 au match aller. Quelle ambition peut nourrir le gym en Ligue Europa Conférence? Quart de finale, demi-finale, finale. On va détailler le plateau. On sera avec Maxime Thiette, notre correspondant, puis l'équipe de France demain. Première liste post-Coupe du Monde de Didier Deschamps. Le dossier gardien dans Génération After. Petite révolution à venir. Walid a une vraie affection pour Brice Samba, coach. Comme toi, je crois.
Ah ben oui.
On va en parler.
Je crois que dans tous les cas, soit on y voit rien, ou soit on fait semblant de...
Tu sais que c'est pas sûr qu'il y soit, apparemment.
Il va peut-être y être. Il va peut-être y être.
Ou pas, justement.
Ou pas.
Non, des infos à vous donner également.
T'es en train de... Mais si... Ah, tu nous poses la clim, là.
S'il n'y a pas, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu qui va sera donc.
Alban Lafont, par exemple, et Alphonse Areola.
D'accord.
Areola.
Oui. Areola, le remplaçant à West.
Gardez-en, les gars. Ouais, on va faire le débat tout à l'heure avec vous au 32-16.
Si tu arrives à me démontrer que Brice Samba, il est inférieur à Areola.
C'est pas le sujet. Tu connais bien la vie du groupe.
Les barbecues.
Ouais.
Il aime bien les gentils garçons des champs, ouais, tu sais, qui font pas de bruit.
Oh, les gentils garçons.
Non, non, mais Areola,
il est gentil, Alphonse Areola.
Ah oui, mais très gentil, très sympa.
Oui. Ouais.
Et puis à 22h, comme tous les soirs, bien sûr, l'after avec Gilbert Bribois. Salut Gilbert.
Salut les gars. Là, tu sais que t'as la doublette.
J'adore.
La doublette explosive.
Ah oui.
Ouais. Attention, Walid Roland.
Rencontre générationnelle.
Ouais, ça peut être très chaud. Hein.
Oui, mais non.
Je sais. Oui, mais toi, Walid, après
ça. Walid, je le connais par cœur. Il est là, il est en face de Roland. Il a
trop de respect pour coach, Walid. Trop de respect.
Ah non, moi, c'est un plaisir. J'aime bien aller au combat.
Il faut que tu le rentres dedans quand même ce soir.
J'aime bien aller au combat avec Roland quand il faut aller au combat.
Contre Roland.
Voilà, contre Roland.
Ouais,
après, quand on est d'accord, on est d'accord.
Alors, à 22h, évidemment, les matchs, hein, parce que si jamais il y a une once de suspense dans les deux matchs de Ligue des Champions, vous ne raterez absolument rien, évidemment, ce soir. À 22h, on va parler de nos instances internationales qui, tous les jours, nous régalent, la FIFA, l'UEFA. Donc là, Seferin, il veut ouvrir la porte à la possibilité d'avoir deux clubs ayant le même actionnaire en Coupe d'Europe.
D'accord. C'est bizarre.
Tous les arrangements sont possibles. Ouais. Hein, voilà. Donc, ouais. Daniel Riolo veut en parler. Lionel Charbonnier sera là. Il donnera son avis d'ailleurs sur la nouvelle hiérarchie possible des gardiens en équipe de France. Il veut aussi revenir sur la sortie prématurée d'Haaland hier, que certains n'ont pas comprise. Lui va expliquer pourquoi il est sorti. Voilà, parce qu'il était coach, Lionel.
Et il connaît Guardiola également.
Exactement. Donc ce sera tout à l'heure. Les drôles de l'homme pour analyser les matchs du jour et le plateau des quarts de finale de Ligue des Champions. Et puis on ira en Suisse. Entre 23h et minuit, on vous racontera comment le Qatar a espionné le procureur suisse qui s'intéressait justement aux affaires de corruption et d'attribution de la Coupe du Monde. Voilà. Bon, faut dire que le procureur, il a fait sa réunion dans un hôtel qui appartient au Qatar. Peut-être pas très malin. Bon, on vous racontera tout à l'heure. C'est une affaire d'espionnage passionnante. Ce sera dans l'after tout à l'heure.
After 007, quoi.
Exactement.
Avec Daniel et Lionel Charbonnier. Tout à l'heure, cher Gilbert. La Ligue des Champions d'abord pour commencer. Dans moins d'une heure, le coup d'envoi à la fin des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Liverpool est-il capable de renverser le Real ? Fred Hamel est avec nous. Salut Fredo.
Hola chicos.
Julien Laurence également. Salut Julien.
Salut Fred.
Salut Nico. Salut à tous.
Et au commentaire de ce match, Jeannot Rességuier. Bonsoir Jeannot. Bonsoir Jeannot. Il va arriver dans un instant, Jeannot Rességuier. On entend l'ambiance du stade Santiago Bernabéu. Ça arrive dans quelques secondes. Bon, avant d'avoir les compositions, on va vous les donner dans un instant. Bien sûr, elles sont officielles à moins d'une heure du coup d'envoi de ce match. Fred, la question. On a commencé à l'évoquer lundi soir. Le Real est-il à l'abri d'une très mauvaise surprise ce soir ?
Non. Et la compo d'Ancelotti montre que le Real ne se sent pas sûr de lui. Parce que on peut peut-être la donner rapidement. Enfin, c'est l'équipe. On va dire c'est l'équipe type quoi. C'est la meilleure équipe possible. Alors qu'il y a un classico qui va décider de l'avenir de la Liga. Dimanche, le Real joue au Camp Nou. Et si le Real ne gagne pas là-bas, c'est fini pour la Liga. Encore plus s'il perd. Donc, on pourrait imaginer qu'avec un 5-2 à l'aller à l'extérieur, tu vas réserver quelques joueurs clés. Ben non, il y a tous les grands. C'est la meilleure équipe possible alignée par Carlo Ancelotti. Donc Carlo Ancelotti déclare clairement avec son 11 qu'il se méfie absolument de cette équipe.
C'est une surprise pour toi, Fred ?
Ah non.
Oui, c'est logique.
C'est logique. Mais c'est-à-dire que c'était logique aussi quelque part par rapport au résultat de penser un peu au match de dimanche. Mais non, parce que Ancelotti, il connaît le football, il connaît l'histoire. Je vous rappelle qu'Ancelotti avec Milan, il gagnait 3-0 à la mi-temps contre Liverpool. Vous vous souvenez de cette finale ?
Bien sûr.
Hein, et qu'il a perdu au tir au but. Donc non, il y a aucun risque. On veut même éviter ce qu'on appelle en Espagne le susto. Le susto, c'est se faire peur. Voilà, parce que il y a tellement d'exemples, et on en parlait lundi hein, dans l'after spécial DDD, qu'il y a tellement d'exemples, notamment lors des trois années magiques avec Zidane, où le Real gagnait facilement à l'aller.
La Juve notamment.
Et la Juve, le Bayern, il se faisait extrêmement peur au retour.
3-0 à Turin, mené 3-0 au retour à Bernabéu avant de marquer pour se qualifier.
Avec le penalty
Chelsea sur également, les gars, en quart de finale, la saison dernière.
En Chelsea l'année dernière, où ils avaient gagné 3-1 à l'aller.
Exactement.
Ils sont menés 3-0 au retour.
Enfin, l'an dernier, ça a été tout un festival de sous-stoche, justement. Et en plus, c'est d'autant plus important. Déjà, naturellement, le Real Madrid fait très attention en Ligue des Champions, c'est sa compétition. Mais en plus, là, où ils sont mal partis en Coupe du Roi, ils ont perdu 1-0 au match aller à domicile contre le Barça. La Liga, ça va être très compliqué. Donc, c'est vraiment la Ligue des Champions. Là, Ancelotti ne peut pas se permettre. Je vais même vous dire, aujourd'hui, vu l'ambiance autour du Real, etc., le Real ne peut pas, même pas se permettre de perdre aujourd'hui, même s'il passe. Voilà, parce qu'une défaite, ça fait tâche, toujours.
Coach.
Mais la question, c'était, est-ce qu'on croit à une surprise ?
Oui.
Eh bien, on peut répondre non. Hein.
Bien sûr.
Eh bien, voilà, c'est fait.
Ah oui.
Donc, et quand
tu n'y crois pas une seconde, quoi.
Et quand je vois qu'il y a la meilleure équipe de ma chaîne, mais j'y crois
encore moins. Justement, la composition, Jeannot Rességuier est bien avec nous. Salut, Jeannot.
Est-ce que vous m'entendez ?
Très bien. Parfait. Bonsoir, cher Jeannot.
Bonsoir, tout le monde.
C'est Jeannot. Alors, la composition.
Alaba blessé, retour de Ferland Mendy dans le groupe. Ça, c'est les infos au niveau de l'infirmerie, n'est-ce pas, mon cher Fred Hermel. Courtois dans les buts. Rudiger avec Militao pour la charnière. Nacho à gauche, Carvajal à droite. Milieu de terrain, Tchouaméni sera remplaçant. Camavinga qui enchaîne avec et avec Modric, et les trois de devant, Vinicius à gauche, Valverde à droite et Benzema avec le brassard de capitaine. Voilà pour les choix de Carlo Ancelotti. Pour ce qui est de Liverpool, on rappelle que Thiago est toujours blessé, Anderson lui est malade, il ne sera donc pas dans le groupe ce soir. Alisson dans les buts, Konaté titulaire, Gomez qui a eu quelques difficultés au match aller et sur le banc des remplaçants, Van Dijk à côté de Konaté, Alexander Arnold qui est le seul joueur sur la feuille de match, sur le coup d'un avertissement sera dans le couloir droit, Robertson couloir gauche, Fabinho avec Diogo Jota et Milner qui aura le brassard de capitaine, Salah, Darwin Núñez et Gakpo. Comme le disait tout à l'heure Walid, c'est une équipe quand même assez offensive. Et dans la tranquillité du discours de Jürgen Klopp hier en conférence de presse, une victoire envisageable, une qualif pas à exclure.
Julien, la composition de Liverpool, justement, là aussi on n'a pas de surprise.
Si, on a une grosse surprise justement. C'est à quel point il est offensif, puisque c'est la première fois de cette saison que Gun Club décide d'aligner ses quatre attaquants, Jota, Darwin, Salah et Gakpo ensemble. On les avait vus pour la seconde période contre Bournemouth samedi. Jota était rentré à la mi-temps, était entré à la pause. Ça n'avait pas été génial, puisqu'ils n'avaient pas marqué de but en 45 minutes ensemble. Ils n'avaient pas non plus très bien combiné non plus. Et au final, ça avait été une défaite assez humiliante à Bournemouth 6 jours après avoir démoli Manchester United. Donc on va voir ce que ça va donner ce soir. On se demandait tout à l'heure à la télévision anglaise aussi qui allait jouer en pointe, qui allait jouer en deuxième attaquant. On sait que Salah sera à droite et Darwin à gauche. Donc ce sera entre Jota et Gakpo. Peut-être Jota en pointe et Gakpo juste derrière lui. Peut-être l'inverse. Peut-être beaucoup de mobilité aussi. Et beaucoup de fluidité entre les quatre de devant. C'est possible aussi. Mais c'est très très rare que Jurgen Klopp ne joue qu'avec deux milieux de terrain. Alors, Jeannot l'a dit, il y a pas mal d'absents. Le milieu de terrain, de toute façon, cette année pour Liverpool, ça a été... Le gros point noir, la grosse problématique, sans que Klopp ne trouve vraiment jamais ni la bonne formule, ni la bonne dynamique non plus. Donc c'est peut-être pas étonnant non plus pour un match pareil. Il joue le tout pour le tout avec quatre attaquants et simplement deux milieux de terrain.
Bon, reste avec nous Julien, Fred également, Walid et coach à mes côtés. On va faire une pause, on va revenir sur cet avant-match. On parlera de Naples à Eintracht Francfort également tout à l'heure. Vous pouvez nous appeler au 32-16 bien sûr, participer au débat avec coach Walid, Julien et Fred Hermel. On va parler de Benzema, de Kamavinga également, titulaire ce soir. Restez avec nous, c'est Génération After sur RMC. Il est 20h14, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec coach Courbis, Walid Dacherchour, Génération After jusqu'à 22h, Génération After particulier, Ligue des Champions, la fin des huitièmes de finale, retour avec les deux affiches du soir. Avant d'évoquer tout à l'heure Naples-Francfort, nous évoquions ensemble le duel Real Madrid-Liverpool. T'entends là-dessus également, mon cher Walid. Est-ce que, comme coach, tu ne crois absolument pas en une surprise ce soir, un renversement de Liverpool?
Ah, j'ai du mal à imaginer le Real Madrid en prendre 4 ce soir contre Liverpool. Tout simplement, je vois pas comment cette équipe qui a quand même une solidité défensive, le meilleur gardien au monde, voire l'un des meilleurs gardiens au monde, ça reste subjectif, mais pour moi, Thibaut Courtois, on l'a encore vu l'année dernière, ça reste une valeur sûre, même si il y a eu cette petite erreur à l'aller. Voilà, je pense que cette équipe du Real Madrid, quand elle est en Ligue des Champions, elle arrive à avoir cette solidité-là, même si elle s'est fait peur sur les dernières années, même si il peut avoir peut-être un scénario, Liverpool peut ouvrir le score, pourquoi pas. Maintenant, la marge qu'ils ont, elle est assez énorme, et je serais très 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 surpris que le Real Madrid prenne une remontada, pour employer un terme espagnol.
En plus de ça, donc avec tout ce qu'on a entendu avant qu'on prenne la parole, c'est que le Real Madrid, ben, tu le connais le dicton, un homme averti en vaut deux. Mais ce soir ils vont jouer avec 22 joueurs, le Real Madrid, compte tenu de ce qui leur est arrivé par le passé. On se rappelle de la finale avec le 3-0 qui est devenu 3-3 et tout. Et là maintenant c'est à Madrid le match retour contre une équipe de Liverpool qui après 60 minutes d'effort appelle les pompiers. Donc qu'est-ce que tu veux être inquiet d'un miracle?
La dernière fois que le Real Madrid en a pris 4 en Ligue des Champions en phase d'élimination, je pense que c'est l'Ajax qui les élimine en mettant un 4-1 assez incroyable. Il avait fallu
il y a 40 ans.
C'était 2019 il me semble. Ouais, 2019.
Donc je me rappelle d'un autre match avec.
Mais oui, avec Tadić, Ziyech, etc. Donc il va falloir faire ce style de match pour Liverpool. Est-ce que Liverpool en est capable? Moi, je ne pense pas. Liverpool en a mis 7 contre Manchester United, mais on a bien vu que cette semaine contre Bournemouth, ils sont revenus un petit peu sur terre. Donc voilà, globalement, je peux pas l'imaginer. Même si avec le football, on est sûr de rien. Et surtout en ce moment, quand on voit ce qui peut se passer.
Ah, maintenant. Attention avec les erreurs d'arbitrage qu'on a vues hier. Si ils expulsent le gardien, s'il y a deux pénalties qui n'y sont pas, s'il y a des mains qui ne sont pas visibles, ah oui, c'est sûr que là on était impuissants.
Et puis avec la composition d'équipe de Liverpool, on est quand même sur un 4-2-4 avec Núñez, Salah, Jota et Rarpo. le milieu de terrain, il va falloir quand même que James Milner et Fabinho soient très très solides, parce que dans les transitions du Real Madrid, je pense qu'ils vont avoir des espaces et ils aiment ça. Ils aiment les espaces.
Non, ils vont tenter le coup dans les 30 premières minutes.
De
démarrer à 200 à l'heure, ok. Ils vont peut-être ouvrir le score, mais où là? Les 93 minutes, elles sont longues.
Fred, comment va Karim Benzema? On a eu un doute ce week-end. Il n'était pas aligné contre l'Espagnol Barcelone. Ancelotti a dit qu'il était à 100%.
Benzema est un joueur, n'est plus un joueur aujourd'hui à 2 matchs par semaine. Voilà, il a eu 35 ans au mois de décembre, il y a des petits pépins physiques qui s'accumulent. Ancelotti, enfin, j'ai du mal à penser qu'il soit à 100% alors qu'il n'a pas joué ce week-end. Voilà, donc, mais Karim Benzema n'a pas besoin d'être à 100% pour être très utile dans l'équipe. Parce que dans le jeu, il a toujours cette magie qu'on lui connaît, même si je trouve qu'il a quand même plutôt baissé de niveau et que cette saison n'est en aucun point comparable à celle exceptionnelle de la saison dernière. Ça c'est clair. Donc voilà, c'est important d'avoir Karim Benzema, surtout parce qu'il n'y a pas d'autre numéro 9. Hein. Sinon, c'est Rodrigo qui joue en
mais
numéro 9.
Le Benzema de la saison dernière, c'est la... Le pic de la carrière de Benzema la saison dernière, quand on revoit ce qui se passe depuis les huitièmes de finale, quand on voit ce qui se passe en championnat, autant dans son comportement que dans ce qu'il a fait personnellement, dans ce qu'il a fait collectivement, mais c'est tout simplement.
Mais c'est impossible à imiter.
Impossible
donc,
de renouveler voilà. Ça.
Et puis c'est impossible. Et puis c'est plutôt logique avec les sollicitations qu'il a eues après le Ballon d'Or.
Ouais,
moi, je me rappelle des trois mois qui ont précédé le Ballon d'Or de Modric, c'était aussi un peu comme ça. Il y a aussi la Coupe du Monde, les blessures à répétition. Et puis surtout, il faut pas écarter le fait que Karim Benzema, pour l'instant, n'est pas à son meilleur niveau. Mais même en n'étant pas à son meilleur niveau, il met quand même un doublé à l'aller. Faut pas l'oublier.
Et que non, mais surtout, c'est dans le jeu, en fait. Oui. C'est le liant que lui apporte simplement par sa simple manière de se mouvoir sur un terrain. C'est tellement intelligent que ça guide les autres.
Bien sûr.
C'est-à-dire que Vinicius, il est meilleur quand il y a Benzema en référence.
Bien évidemment.
Voilà. Donc, et surtout, il provoque beaucoup de 1-2, etc. Ce qui fait que c'est très difficile pour les adversaires de défendre. Donc, non, cette équipe, elle est très belle ce soir. Je suis quasiment certain que le Real va se qualifier. Par contre, je crois à la possibilité de se faire peur. Je crois, comme on l'a vu contre l'Espagnol samedi, que le Real peut encaisser un but rapidement. Parce que c'est une équipe qui a c'est ce genre de lapsus, ce genre de fragilité. Donc, c'est-à-dire que même que au bout d'un quart d'heure, Liverpool gagne 2-0, c'est possible. Après, je ne vois pas cette équipe-là ne pas marquer. C'est ça, cette équipe du Real ne pas marquer. Et à partir du moment où tu marques, bah, c'est mission impossible pour Liverpool. Quoi. Alors, en tout cas, ce qui est génial, c'est que vu les deux équipes ce soir, bah, on va prendre du plaisir.
On risque de voir un bon match.
Si à 0-0, j'arrête. Hein,
ouais.
Merci Fredo, on te retrouve pour le débrief hein, tout à l'heure avec Gilbert.
Un tout petit truc quand même.
Vas-y.
Salut, moi, je suis un peu surpris quand même de voir Camavinga milieu défensif ce soir. Moi, je trouve que, rappelez-vous à l'aller, le premier but, c'est une erreur de Camavinga. Je trouve que Camavinga, quand il est dans un rôle plus défensif, qu'il soit latéral ou milieu défensif, c'est beaucoup plus compliqué pour l'équipe. C'est un joueur qui est mieux quand il est dans le rôle de cross.
Tu trouves, toi?
Bah tu regardes, mais de toute façon tu vois les pertes de balles.
Oui, il fait quelques... Oui, mais après le problème de Camavinga, c'est qu'il a fait des erreurs et t'as raison d'insister là-dessus. Mais ces matchs quand même, dans la globalité, c'est souvent quand même intéressant. Même en dépannant Fernand Mendy sur le côté gauche, le match contre l'Atlético.
Oui, c'est pas son métier.
Oui, il fait encore des erreurs, mais ça reste un jeune joueur. Mais sinon son travail, moi je trouve que dans son travail global, il y a quand même pas mal de choses à tirer de positif. Et Ancelotti l'a dit en conférence de presse notamment hier, il disait qu'aujourd'hui c'était un élément quand même très très important. Pourtant, de par sa polyvalence et de par son.
Il est incontournable aujourd'hui, il le sera dans le futur. C'est ce qu'il a dit Ancelotti.
Oui, et pourtant,
en début de saison, il avait beaucoup critiqué Ancelotti.
Vous ne m'empêcherez pas de penser que Camavinga reste une arme essentielle quand il entre en deuxième période, quand ça va mal.
Ouais.
Et là, tu te prives de ce joker-là. Peut-être que le Real, peut-être que finalement, Ancelotti pense qu'il n'en aura pas besoin.
Qui aura sur le banc?
Comment?
Sur le banc du Real?
Asensio.
Il y a
Tchouaméni, bien sûr. Rappelez-vous ce qui s'est passé contre le PSG. Le côté dingue qu'il a quand il entre à l'heure de jeu, qu'il apporte cette verticalité, cette puissance, etc.
Cette fougue.
Cette fougue, là, il n'y a pas d'autre que lui, en fait.
Fred, à tout à l'heure pour le début de ce match. Julien, tu restes avec nous dans un instant avec Apollo Breitner. On va revenir sur le City Leipzig hier soir. On va parler avec coach Walid et également Apollo Breitner qui va nous rejoindre. Hein. Nouvelle star des réseaux, nouvelle star du PAF, du paysage audiovisuel français qui va faire son entrée dans quelques minutes.
Est-ce qu'il a compris ce qu'était Génération After, Apollo?
On va lui expliquer s'il n'a pas compris. Reste avec nous dans Génération After. Vous écoutez RMC, il est 20h24. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Coach Cobis, Walid Acharchour, Julien Laurent est toujours avec nous et j'accueille Paulo Breitner. Bonsoir Paulo.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde.
Tout à l'heure, on parlera bien sûr de l'autre huitième de finale retour hein, qu'on va commenter ce soir entre le Napoli et l'Eintracht Francfort. Je veux d'abord qu'on revienne un instant sur le match d'hier soir qui a donc opposé Manchester City à Leipzig parce qu'il fait encore parler aujourd'hui pour le quintuplé d'Erling Haaland bien sûr, mais aussi pour la prestation de Zlatko Vincic, arbitre slovène de ce match, lâché par sa VAR, ou alors il a mal utilisé, hein, qui n'a pas vu la grosse faute, notamment d'Ederson sur Werner, et qui a accordé un pénalty ridicule à City. Polo, bon, tu t'es un peu lâché hier, hein, ça a beaucoup fait réagir ici. Hein. Je pense que Julien, on en a parlé en Angleterre de la saillie de Polo ou pas sur RMC?
Sur les infos à 18h là, sur la BBC, c'était tête d'info. Il n'y avait que Polo, en plus il aime la BBC, donc il nous l'a dit l'autre jour, donc c'était effectivement.
J'espère qu'ils ont traduit, qu'ils ont mis des bips hein, parfois, parce que.
Surtout son imitation sur les fans puceaux de la Première Ligue. Là,
on peut le dire, mais je pense que c'est all time hein, dans l'histoire de l'after.
Comme oui, tirade, ça va faire date,
comme
bien
tirade,
sûr.
Ça, sera, ouais,
ça fait date. Je pense que les jingles ont déjà été découpés.
Moi, ce que j'ai préféré, c'est le Direct Studio. C'est quoi ce Direct Studio?
Mais c'est très bien ce que c'est en plus, Polo. Il fait semblant, il fait très bien. Tous les soirs, on en parle.
Non, c'est le nom d'une radio libre des années 80 dans le Cantal.
Mais là, c'est juste une plateforme avec des messages, Polo.
Sacré Polo.
Bon, mon cher Polo, tu as reçu beaucoup d'appels, j'imagine, aujourd'hui.
J'en ai surtout reçu un.
Je sais bien. Soigne ton langage, mon cher Polo, mais on a adoré, voilà, évidemment. Voilà, voilà. Alors,
l'institution RMC m'a tapé sur.
Est-ce que les médias allemands en ont parlé aujourd'hui, abondamment, mon cher Polo? Ou pas du tout? Pas de toi.
Oui, bien sûr, heureusement. Le penalty, oui. En fait, si tu veux, c'est une forme de ras-le-bol. C'est pas lié, évidemment, tel que je peux le voir ou le lire parfois à la prestation de City, etc. C'est ce ras-le-bol qui est constant et en constante augmentation sur l'utilisation de cette nouvelle technologie. Alors, ça va de différentes façons. Tu as Lukas Podolski, l'ancien international allemand, qui s'est exprimé en insultant carrément la technologie. Tu as Mats Hummels, qui avait fait déjà une phrase en disant mais il faut absolument qu'on change ces règles sur les mains parce que on va dans la mauvaise direction. Et tu as sur les plateaux télé par exemple l'ancien champion du monde Matthias Sammer qui lui a été en rage parce qu'il dit mais la dernière fois c'était Chelsea, là c'est Manchester City, tous les week-ends en Bundesliga c'est pareil, il veut plus en entendre parler. Et je dirais à la rigueur au-delà de ces différentes personnes comme Roland, Walid, nous qui pouvons être d'accord ou pas d'accord sur ces questions-là, moi ce qui m'intéresse c'est les arbitres en Allemagne. Et les anciens arbitres internationaux, ils trouvent que c'est complètement délirant ce qui se passe en ce moment, que c'est une forme d'abaissement du niveau moyen des arbitres en Europe, etc., depuis l'installation de cette nouvelle technologie. Il y a notamment Michael Greffeux, qui est ancien international allemand, qui a été élu en Allemagne le meilleur arbitre en 2017, qui lui ne comprend pas toutes les décisions qui sont prises en ce moment, en dépit du bon sens, par les arbitres, quand ils voient l'évolution de cette technologie. Et donc, si tu veux, il y a un ras-le-bol global qui se fait sentir, et encore une fois c'est pas lié à la performance de City, parce qu'évidemment Manchester City était largement supérieur à Leipzig. C'est juste que sur un fait de jeu comme ça, et ben alors que Leipzig est officiellement pas encore éliminé, bah tu te retrouves avec un penalty contre toi, etc. Voilà.
Julien, toi en Angleterre, après je donne la parole à coach évidemment, est-ce que c'est un sujet ou pas? On est passé à autre chose, on est resté sur le quintuplé d'Erling Haaland?
Ouais, pas du tout. Mais même hier, hein, ils en ont parlé. On a forcément parlé un petit peu en Angleterre, que ce soit à la télé, à la radio, même dans les journaux, un tout petit peu. Mais on parle que d'Haaland, du quintuplé, de la décision de Guardiola de l'avoir fait sortir. Si c'était la bonne idée, pas bonne idée. Pourquoi le club qui brief un petit peu aujourd'hui en disant que c'était prévu, qu'il voulait pas qu'il se blesse, etc. Mais c'est vrai que l'arbitrage, ça passe très très loin derrière la démonstration d'Erling Haaland.
Coach.
Ben, si tu veux, j'ai une habitude, on a tous des qualités et des défauts. Moi, j'ai une habitude, je me mets un petit peu à la place des gens dans certaines situations. Et j'ai eu la chance et le plaisir d'être entraîneur. Aujourd'hui, je vous fais une confidence, mais je crois que je l'ai déjà dit. Je suis très heureux de ne plus être sur le banc parce que j'aurais vraisemblablement dérapé. Alors qu'en 30 ans, j'ai peut-être dérapé une fois en 30 ans. Donc quand je vois qu'on s'occupe de savoir si Guardiola aurait dû sortir ou pas donc le monstre là-devant, et que à 2-0, et ce 2-0 avec un pénalty qui est un pénalty, je dirais pas imaginaire, mais là, si on siffle pénalty là, il y en a 50 par match de pénalty. Eh bien, moi, j'aurais bien voulu voir ce gardien expulsé, et là peut-être il y aurait eu un joueur avec le gardien remplaçant qui rentre, qui serait sorti, peut-être ça aurait été Haaland, hein, puisqu'il était discuté avant le match, il y avait les pour et les contre, et on ne serait pas en train de parler de, que s'il aurait dû marquer le sixième ou pas, parce qu'à 2-0, même si à 11 contre 11, évidemment, je suis d'accord avec tout ce que j'entends, que Manchester City est meilleur que Leipzig, à 11 contre 11, mais à 2-0 déjà avec un pénalty tordu, si le gardien est expulsé, eh bien j'aurais voulu voir ce match-là, moi, devant ma télé, à 11 contre 10. Et voilà. Et ça, c'est tout simplement insupportable. Je me mets à la place de l'entraîneur que j'aurais pu être dans un match comme ça, eh bien je préfère pas, parce que j'aurais certainement déconné.
Bon, Walid.
Non mais tout a été dit, tout a été dit. Et clairement, hier, l'enchaînement des décisions... pour Leipzig, pour moi c'est
on a rarement vu aussi grossier que ça.
Ah mais pour moi c'est
historique même.
C'est un enfumage en Mondiovision quoi. Clairement aujourd'hui ce qui s'est passé hier.
Ouais mais excuse-moi de te couper.
Un fumage de quoi? Mais City ils sont meilleurs. Mais pour le
alors tu m'aurais fait plaisir de poser une question à Guardiola. C'est mon biquet. Tu disais en cas d'expulsion du gardien, c'était Haaland qui sortait ou pas?
Mais déjà il est pas dernier défenseur le gardien. Il va pas être expulsé alors qu'il a un joueur qui est juste derrière lui de City, un joueur qui est juste à côté de lui de City, donc je pense qu'il aurait pris jaune, il y avait coup franc, c'est sûr, mais je pense pas qu'il aurait été expulsé.
Et le pénalty, Julien?
Non, mais oui, mais d'accord, mais avant le pénalty, il y a deux grosses occasions pour City. Faut arrêter de me faire croire que c'est l'arbitrage qui a fait gagner City.
Non, on peut dissocier les deux, hein. Personne n'a dit ça. On a dit qu'aujourd'hui.
Tu me dis c'est un enfumage.
Ah bah oui.
C'est pas un enfumage.
À partir du moment où, à 0-0, dans un match aussi important, en 8e de finale de Ligue des Champions, qu'une équipe qui arrive contre Manchester City.
C'est le respect très bête et très dissipé de la règle en réalité.
Mais d'accord, ok, mais pour moi, encore une fois,
on peut discuter la règle, mais ça on peut le faire.
Non, mais en fait, il y a deux débats.
De l'ouverture d'un score.
Si le débat c'est de dire que Manchester City aurait gagné cette rencontre quoi qu'il arrive, je pense qu'ils auraient gagné la rencontre quoi qu'il arrive, même plutôt largement. Donc je suis d'accord avec Julien. Maintenant la réalité, c'est pas parce qu'on a dit ça qu'il faut accepter le fait que le City a eu des décisions favorables très favorables.
Ça, je suis d'accord avec toi.
Tout simplement.
En fumage. S'il gagne 1-0 sur ce penalty là, tu me dis en fumage, je te dis d'accord. Là c'est normal.
Mais après, Julien, tu sais très bien que dans le football de haut niveau, l'importance d'une ouverture du score, est-ce que ça peut te mettre psychologiquement? Tu sais très bien. C'est pas le même match derrière.
En plus, de 1-0 à 7-0,
Julien,
c'est
Julien,
pas.
Julien, Julien,
moi, je suis un grand fan de Manchester City, mais tu connais Manchester City, notamment en Ligue des Champions, le facteur mental et psychologique. Plus le match, court à 0-0, plus il commence un peu à cogiter, etc. Donc, tu sais très bien que psychologiquement, sur ce type de match, bon, on l'a vu avec Ederson. Ouais,
bien sûr, ça les a aidés.
Et d'après le règlement que je ne connais peut-être pas complètement, si par exemple un défenseur, dernier défenseur ou pas, fait la même faute que ce qu'a fait le gardien, tu es sûr qu'il prend seulement un jaune?
Exactement.
Et le pire, c'est que Werner prend un jaune. C'est ça le pire dans l'histoire.
Ouais, pour contestation, c'est
extraordinaire.
C'est un moment absurde. Absolument
c'est trop loin.
Absurde.
Mais je ne suis pas persuadé que Darkhan soit expulsé, non? Mais c'est vrai que l'arbitrage a été mauvais. Mais après, je trouve ça quand même un peu gros de dire, de tout remettre sur l'arbitrage.
Mais personne ne remet tout sur l'arbitrage. On dit juste que.
Mais si, tu me dis en fumage. Il y a une erreur de l'arbitre qui a coûté cher, effectivement. Mais Julien, voilà.
Les 25 premières minutes sont pour City. City a deux énormes occasions. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais dans un rendez-vous aussi important, je ne vais pas répéter, mais tu sais très très bien l'importance d'être
joué sur le score. Je suis d'accord avec toi.
N'importe
quel. C'est plus sur le mot en fumage, Walid, que j'avais du mal.
Tu peux enlever. Petit scandale. Non, si ça s'appelle.
Non, mais si. Non, mais si, ça les a aidés. Bien sûr, ça les a aidés.
C'est plus poli quand c'est plus poli.
Ah, voilà, bah, bien sûr, ça les a aidés.
Belle leçon de politesse de la part de
Polo. Ah oui, bah oui, là, t'inquiète pas.
Quel bon élève, ce Polo. Un appel et tout de suite, il rentre dans les rangs.
Je vais bientôt prendre ma carte chez les Républicains, là.
Quelle discipline.
Ah oui,
maintenant, il adore le 21e siècle.
J'adore le 21e siècle, c'est fabuleux.
Maintenant, ça n'enlève pas la supériorité de City, d'Erling Haaland.
Bon, les gars, je veux qu'on parle de la VAR quand même, Coach.
Que City soit supérieur à Leipzig, je suis le premier à le dire. Mais j'aurais voulu voir, par curiosité, à 11h10, s'ils auraient été supérieurs.
Bon. Coach, tout à l'heure en préambule, en début d'émission, tu voulais nous parler de l'assistance vidéo. Tu la rejettes pas en bloc, la VAR.
Non,
je fais
un bilan. Alors c'est pas le meilleur bilan que l'on peut faire. C'est le mien. Je me mets aussi à une certaine époque si j'avais pu être sur le banc avec la VAR. Je crois que j'aurais protesté très très souvent. Ça c'est sûr. Et je me dis maintenant, finalement, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Je crois que c'est une très bonne chose en ce qui concerne les hors-jeux. Dernièrement, je discutais avec certaines personnes, donc un garçon passionné et très compétent qui est Greg Lorenzi à Brest, donc qui reste une personne avec qui j'échange des fois des idées de football, et lui aussi pense que le hors-jeu, ok. Et en ce qui concerne après les pénalties, sincèrement, je ne sais plus quand c'est qu'il y a pénalty, quand c'est qu'il n'y a pas pénalty. Donc je pense que si on fait un bilan aujourd'hui, on se dit, allez, quand on a des situations où on ne sait plus qui c'est qui arbitre, quand on voit des arbitres avec leur sifflet, ben ne pas décider eux, alors que moi j'avais toujours pensé au départ que la VAR allait aider l'arbitre, mais que l'arbitre avec son sifflet, c'était lui le patron et qui pouvait se servir de la VAR pour éviter de faire des conneries, même si après tu es obligé d'en faire quelques-unes. Donc le hors-jeu, ok. Et même si des fois il faut attendre, même si des fois ça se joue à 10 cm, eh ben c'est les progrès que l'on peut faire. Mais en ce qui concerne les pénalties, eh ben pour moi, les tirs au but, c'est l'arbitre qui décide. Et si par exemple on lui signale, tiens, va quand même voir, c'est très intéressant de le voir. Eh ben tu te déplaces, tu vas voir et tu regardes si tu t'es trompé ou pas en sifflant ce pénalty. C'est comme ça que je vois là-bas. Mais voir. Par exemple, un pénalty comme hier, ne pas être annulé par la VAR, et au contraire, l'arbitre, tout joyeux, là. Enfin, bon, j'allais déraper moi aussi, avec une grossièreté. Et qui a l'air d'un stupide. Il est tout content, il a sifflé son pénalty, il montre avec le doigt qu'il y a pénalty. Mais là, tu montres vraiment qu'il y a une évolution, mais qui est une évolution compliquée. Et pour moi, je me pose la question. Est-ce qu'il faut continuer ou pas? Pour les hors-jeux, oui. Pour le reste, je pense pas.
Julien?
Ce que j'allais dire, c'est que entre le match de Chelsea Dortmund d'il y a donc une semaine et celui-là, ça fait quand même deux gros scandales. Voilà, on va dire scandale. On est tous d'accord, petit ou grand scandale. Que Jude Bellingham dise que c'était une blague absolue, la façon dont le penalty avait été surtout retiré pour Chelsea lors du match contre Dortmund hier avec Leipzig aussi. Quoi qu'il arrive, il va falloir qu'il règle à un moment ce problème des mains. Hier, bien sûr, que ça frôle le bras de Henrich, mais à partir du moment où le ballon ne change pas de direction, par exemple, n'est pas complètement freiné ou arrêté par la main, à un moment, est-ce que tu as vraiment besoin de siffler un penalty pareil? Peu importe le match, peu importe, mais encore plus dans un match comme ça à grosse importance. Il va falloir clarifier tout ça, et l'IFAB peut m'inventer des nouveaux trucs à droite, à gauche, mais à un moment des hors-jeux semi-automatiques, mais à un moment, c'est ces décisions-là qui comptent le plus.
Polo.
Mais moi, je pense qu'il y a un autre problème, c'est la fabrique du consentement. C'est-à-dire qu'on est en train de s'habituer, les nouvelles générations sont en train de s'habituer à la VAR, avec ses défauts. Et en fait, le problème, c'est que, imaginons que, pour une raison très simple, 2023-2024, on annule la VAR partout, et ben, il va y avoir des excès partout sur le terrain, et là, on va dire, mais vous voyez que c'était mieux avec la VAR, etc. C'est-à-dire
Absolument.
Et ça, c'est terrible, c'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Donc, on nous a expliqué depuis le début que cette technologie allait grandement améliorer le football. Alors, ils ont sorti des statistiques qui, d'ailleurs, il n'y a qu'eux qui les comprennent, parce que moi, j'ai toujours pas compris le pourquoi du comment. Mais c'est très compliqué, parce que c'est justement dans ces moments-là que, comme le disait Bertolt Brecht, c'est la bête monde qui sort du ventre. Ouais, c'est-à-dire que c'est, tu sais jamais ce que ça va donner.
Polo,
et oui.
Par exemple, qu'on puisse se servir de cette technologie pour éviter un but de la main, des choses qui sont tout simplement horribles. Oui, extraordinaire pour celui qui en bénéficie, mais horrible pour l'autre. Moi, je pense que là, allez, le progrès arrive, on fait avec. Mais déconnons pas, c'est pas quand même maintenant ceux du camion ou je sais même plus s'ils sont encore dans un camion qui décide à la place de l'arbitre. Mmh. L'arbitre, ça doit rester celui qui décide, aidé par la VAR.
Tout à fait, mon cher coach. Polo, t'as fini?
Oui, oui. Bon, voilà. La fabrique du consentement, c'est
mais qui dépasse le cadre du football, hein, mon cher, évidemment. Le cinéma, la consommation, tout ça. Quoi.
Oui, ça, de toute façon,
même des gens qui disent aujourd'hui que leur film préféré, c'est Yamakasi. Donc, tu vois.
Arrête, non, ça va.
Si,
c'est pas possible.
On a
le droit. Je vais redevenir vulgaire. Là,
on a le droit, mais Yamakasi, c'est subjectif, non?
Allez, mais oui, mais dire que ton film, c'est le meilleur film de tous les temps.
Non, mon meilleur film, c'est subjectif. Le cinéma, c'est des émotions, monsieur Jamin.
Oh là.
Chacun ses émotions.
J'adorerais mettre Polo et Walid devant un film ensemble.
Non, mais après, on pourrait pas là.
Et filmer ce moment-là. Quoi.
Mais encore une fois, je respecte les goûts de Polo.
C'est pas une question de respecter les goûts.
Bah, on va partir les goûts, les couleurs dans l'after, les gars. Je vais avoir une demi-heure.
Mais j'ai le droit d'aimer Yamakasi.
Mais je suis sûr que je viens aussi aimer Yamakasi d'ailleurs.
Yamakasi, c'est un film générationnel. C'est un film générationnel pour moi.
Voilà. Polo, tu restes avec nous, Julien. Tu seras là pour le débrief tout à l'heure, bien sûr, de ce duel entre le Real Madrid et Liverpool.
Nico, tu fais quand même tout.
On espère passionnant.
Tu fais tout pour que Polo me déteste.
Mais il t'adore, Polo.
Non.
J'aime beaucoup Walid, si.
Mais si, il t'adore. Surtout sur le foot, en fait, je pense.
Mais non, le pire, j'aime beaucoup Walid.
Le pire, j'aime beaucoup Walid.
Excuse-moi parfois d'avoir envie de jouer le grand-père, quoi.
C'est pas faux. C'est
oui. Parce que le goût, ça s'éduque, mon cher Walid.
Ah, pourquoi
exactement.
Pas
et
en cinéma, éduquez-moi.
Allez, on revient dans un instant, on va reparler football surtout, et de l'autre huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Napoli et l'Eintracht Francfort. A tout de suite dans Génération After.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Coach Courbis et Walid Acherchour, Génération After, avec en fil rouge, bien sûr, la fin des huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. On a parlé de Real Liverpool. On parle maintenant de Napoli, Eintracht Francfort, avec Johan Crochet. Bonsoir, mon cher Johan.
Bonsoir à toutes et à tous.
Le Napoli, hein, qui n'a jamais été aussi proche de jouer enfin un quart de finale de Ligue des Champions. Ça n'est jamais arrivé dans son histoire. 2-0 à l'aller à Francfort.
Ah bah, moi, je le vois gagnant.
De la Ligue des Champions.
Ah, bah oui.
Moi j'aimerais bien. Je les vois pas, mais j'aimerais bien.
Son coach, ça fait un mois qu'il le dit déjà.
Ouais. Eh ben écoute, je
vais pas se greffer sur une forme.
Je vais pas changer ce soir.
Mais Johan, c'est son année là. Il joue pour une troisième place en quart de finale.
Après
les deux Milan.
L'Inter et le Milan.
Et c'est fou.
Le Napoli.
C'est fou parce que j'en discutais avec Sofiane ce matin à Winamax. Sofiane Zouaoui de Génération After. C'est peut-être l'année la plus faible en termes de jeu sur les dernières années en Serie A. Pour moi en tout cas, je sais pas si Johan partage cet avis, et ils vont, c'est l'année où ils vont en mettre 3. Peut-être que le travail et l'expérience qu'ils ont eu sur les dernières années va permettre à ces trois équipes d'y aller. Mais c'est fou de voir déjà les 2000 ans plus le Napoli.
Ah oui.
C'est...
Ah oui. Ouais.
Alors qu'on décrivait une Serie A chancelante et sur le déclin. Bon, mon cher Johan, justement, il en parle à l'instant. On va d'abord donner les compos avant de développer la saison du Napoli. Avec toi également, Polo, tu es toujours là pour parler de l'Eintracht Francfort. On n'y croit quasiment plus du tout, évidemment. Tu m'as dit une chance sur 100 éventuellement avec les dieux du foot. On va en parler dans quelques secondes.
Surtout qu'il y a des absents.
Hein. D'abord, les compositions. Ouais. Aurélien Tercin, commentaire de ce match. Salut Aurélien.
Salut Nico. Bonsoir à tous.
Salut Aurélien.
Alors, du côté du Napoli, du grand classique avec Alex Meret dans les cages, Kim Min-jae et Amir Rahmani dans la charnière. À droite, le capitaine Di Lorenzo. À gauche, Mario Rui. Un milieu de terrain, Lobotka, Zielinski, Franck Anguissa. Et puis devant, évidemment, Gvichak, Varadzrelia, Victor Osimhen et Matteo Politano qui remplace Irving Lozano, le Mexicain qui était titulaire lors du match aller. Et côté Francfort, c'est évidemment très compliqué sans Randal Kolo Muani suspendu, sans Jesper Lindström, le Suédois qui a marqué
le
notamment
Danois,
en Ligue des Champions. Pardon ?
Le Danois, non ?
Ouais, j'ai dit Suédois, pardon, ouais. Oui, exactement. Il est absent, donc Kevin Trapp dans les cages, Evan Ndika, Tuta dans l'axe de la défense, Aurelio Buta à droite, Christopher Lenz à gauche. On change d'ailleurs un petit peu de système du côté de Francfort avec un peu plus de poids offensif. Mario Götze, milieu offensif, avec derrière lui le capitaine Sébastien Rodeux et Djibril Sow. Et puis devant, Raphaël Boré, le Colombien, avec à sa droite le jeune Ansgar Knauf, prêté par Dortmund à l'Eintracht Francfort. Et puis à gauche, Daichi Kamada, le Japonais.
Tout à l'heure, moi, je suis rien pour le coup d'envoi de ce match. 21h. D'abord, messieurs Johan Polo, un mot sur les images terribles qu'on a vues encore aujourd'hui à Naples. On en avait parlé lundi soir dans l'after. Je rappelle que les supporters de l'Eintracht ne peuvent pas assister au match dans le stade. En revanche, ils étaient bien dans les rues de Naples. Ils se sont battus simplement avec des supporters de Napoli, avec les forces de l'ordre. Mon cher Johan, tu as vu les images aussi, évidemment.
Ouais, évidemment, ça a tourné sur les chaînes d'information sportive en Italie, évidemment. Je ne sais pas si Philippe, auditeur et supporter de Francfort, veut rappeler ce soir, mais on lui rappellera ce qu'on disait lundi sur ce qui s'était passé déjà à Rome, sur pourquoi les supporters de Francfort n'étaient pas autorisés à venir à Naples. Et ils sont venus quand même à 600. Alors, il y en avait 400, entre 400 et 500 à Rome qui avaient foutu le bazar, pour rester poli, en 2018. Mais il y en avait 600 aujourd'hui qui ont fait n'importe quoi. Et on a assisté à des scènes de guérilla urbaine, tout simplement, avec des voitures brûlées, des voitures vandalisées, des vitrines vandalisées, tout ce qu'on aime voir absolument dans les déplacements de supporters en Europe. C'est absolument honteux, c'est incroyable. Et quand j'entends Séphérine dire oui, faut sanctionner l'Italie, c'est pas normal que les supporters puissent pas se déplacer, moi je serais le maire de Naples et la préfecture de Naples, je dirais, j'imprimerais la déclaration de Séphérine, je ferais un petit courrier à l'UEFA, j'envoierais la facture de tous les dégâts qui ont été causés, puis je dirais à régler sous 60 jours, merci beaucoup, au revoir. Parce que c'est bien gentil, mais si Seferin il veut que des matchs à risque, où on sait que des centaines de débiles vont débarquer dans les villes européennes et faire n'importe quoi, bah à ce moment-là, l'UEFA paye. Voilà, paye la sécurité.
Mais c'est horrible d'entendre ça.
C'est terrible, moi je trouve les images sont terribles, parce que pour moi le football européen c'est avec des supporters, ça fait partie de l'expérience. Moi j'ai fait des déplacements en Europe sur des matchs européens, j'ai adoré ça, l'ambiance est extraordinaire normalement, mais quand on a affaire à non pas 5 ou 10 abrutis qui sont souvent difficiles à contrôler, à identifier, etc. Là, quand on en a 600, c'est un petit peu différent.
Polo, rappelle-nous qui sont les supporters, certains supporters, bien sûr, de l'Eintracht Francfort.
Oui, parce que j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas que les supporters de Francfort dans ce qui se passait en ce moment à Naples, ou qui s'est passé à Naples. Apparemment, il y a aussi des supporters de l'Atalanta qui sont présents, je ne sais pas pourquoi.
Ils sont jumelés avec Francfort.
Oui, ils sont jumelés avec Francfort, donc il ne faut pas dire que c'est que les supporters de Francfort. Et puis la notion de supporter, c'est c'est compliqué de dire exactement ça, parce que moi je sais même pas si ces personnes qui viennent sont membres de l'association. Je rappelle quand même, je vais pas défendre le club de Francfort, mais si tu veux, moi ce que je trouve toujours, c'est qu'on attend du club toutes les solutions. Et moi j'ai un problème avec ça, parce que le président de Francfort, Peter Fischer, est quelqu'un qui a reçu un prix l'année dernière parce qu'il se bat contre l'extrême droite, il se bat contre l'antisémitisme, il se bat contre le racisme à longueur de temps. Il vire lui-même lorsqu'il y avait cette finale l'année dernière, contre les Glasgow Rangers en finale de l'UEFA, il avait fait un meeting où il discutait, il y avait des bouffons, je vais dire ça comme ça pour pas être vulgaire, qui étaient là et il voulait les virer directement de l'association parce qu'il voulait plus entendre ce genre de discours, etc. Donc qu'il y a du travail à faire au niveau de Francfort, c'est une chose, mais moi je pense que c'est une vraie résurgence de la violence dans le football qui dépasse le cadre juste du cadre de Francfort. Parce que, et puis il y a aussi le problème des images, c'est-à-dire là on se rend compte que c'est Francfort, que c'est une grosse ambiance en Allemagne. Lorsque ça se passe en 3e ou 4e division dans l'ex-RDA, personne n'en parle. Mais il se passe exactement la même chose. Sauf que ça reste en Allemagne. Il se fait qu'en ce moment en Europe.
Je me rappelle quand même rapidement du Nice-Cologne en début de saison, en Ligue Europa Conférence.
Oui, mais il n'y avait pas que des supporters de Cologne.
Certains supporters, anciens supporters du PSG aussi.
Voilà, exactement. Il y a beaucoup plus. Donc,
il y a des problèmes en Italie, hein, c'est pas que allemand.
Tout à fait.
Et moi, ce que je constate aussi, et ça, c'est. Là, par contre, c'est un problème purement allemand, c'est que et c'est ce qui s'est passé l'année dernière, ils ont tous adoré en Allemagne revoir ces anciens clubs en Europe, de Francfort évidemment, de Cologne. C'est pas Fribourg, c'est pas l'Union Berlin, c'est pas des petits clubs entre guillemets, là c'est des gros mastodontes du football européen avec une longue histoire qui ont un petit peu disparu et qui reviennent. Et je dis toujours ça, même si c'est pas une excuse, 1% d'idiots de 50 000 personnes dans un stade, c'est toujours plus que 1% d'idiots de 10 000 personnes dans un stade. Et le problème, c'est que on se déplace énormément, parce que le supporterisme en Allemagne est très important. Il y a un énorme travail fait par la Ligue allemande pour réguler tout ça, pour éduquer entre guillemets les supporters, etc. Mais il se fait qu'à peu près la moitié du supporterisme allemand ne veut pas rentrer dans ces codes-là. Et c'est en fait c'est ces moitiés de supporters d'associations, mais qui peuvent très bien ne pas être violentes, c'est pas la question. On ne sait pas d'où ça vient, on sait qu'il y a une résurgence d'extrême droite, l'extrême gauche évidemment est aussi présente dans certains cas. Il y a des choses qui se passent, qui sont aujourd'hui difficiles difficilement quantifiable. Ce que je constate, c'est que c'est quand tu analyses politiquement ce qui se passe en Europe, et ben tu vois que cette résurgence, elle est aussi présente dans le football. Et à la rigueur, je veux dire, et c'est encore une fois, c'est pas une explication, c'est presque normal que ça arrive entre guillemets par rapport à ce qui se passe politiquement en
c'est
Europe.
C'est presque prévisible. C'est ce que tu veux dire exactement.
Le problème, c'est trouver les sanctions et comment. C'est-à-dire dire c'est Francfort, c'est pour moi, c'est pas une solution. Ou demain, on dira c'est Marseille ou c'est Naples ou ça. Mais c'est très complexe. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut durcir les lois? Et il y avait plus de d'hooliganisme en Allemagne. Il n'y avait plus d'hooliganisme à tel point qu'ils ont annulé tous les textes de loi sur la violence ou la violence policière contre. Et ils sont forcés en ce moment, ils sont en train de réfléchir à savoir comment on la remet, parce qu'il y a une nouvelle forme d'hooliganisme qui arrive, qui est beaucoup plus complexe, je pense, que celle qui se passait dans les années 80, mais il y a toujours les mêmes résultats.
Voilà pour cet avant-match. On n'a pas eu le temps de parler du jeu, malheureusement. Ce sera peut-être sans suspense. On verra ça, on va suivre ensemble. Vous imaginez pas une seconde, les gars? Walid, toi, Francfort?
Ouais, j'ai du mal à l'imaginer. Ouais. Encore plus que pour le Real Madrid.
Même, pareil.
Parce
même
que,
avis.
Parce que, voilà, Lindstrom et Colomboigny. Colomboigny, ben voilà, voilà.
Ils auraient été au complet.
Pour
avec
la profondeur.
Donc,
et encore, évidemment.
Du score de Francfort. Oui, alors maintenant, ils peuvent aussi ouvrir le score sans Colomani, mais enfin, j'y crois pas trop.
Et Napoli est tellement un rouleau compresseur en ce moment. J'ai encore vu le match contre l'Atalanta ce week-end.
C'est exceptionnel. Victor Osimhen, on voulait en parler avec Johan.
C'est très, très fort.
Malheureusement, tu m'en veux pas, Johan. On n'a pas eu le temps. Tu seras là pour le débrief hein, de ce duel entre le Napoli et Francfort tout à l'heure dans l'after avec Gilbert, Daniel et Lionel. Le coup d'envoi dans un instant de ces matchs, mais nous, on va parler de Nice, dernier représentant français sur la scène européenne, qui l'a emporté 1-0 au match aller en Ligue Europa Conférence et qui va revenir demain soir 21h face au Sheriff Tiraspol. Et puis l'équipe de France, Alice Deschamps, la première liste post-Coupe du Monde. Quels sont les nouveaux tauliers des Bleus? Appelez-nous 32-16 pour en parler. On parlera également de la hiérarchie des gardiens en équipe de France. C'est Génération After sur RMC. À tout de suite.